Il y a 3 semaines maintenant, Marie-Hélène s'était rendue à Argelès-sur-Mer où elle avait trouvé un emploi saisonnier. Son corps était retrouvé une semaine plus tard sur un chemin isolé. Atrocement mutilée, la jeune fille sera identifiée grâce à son ADN. Ce meurtre rappelle étrangement celui d'une étudiante de 20 ans dont le cadavre avait été découvert dans un terrain vague, là encore près de la gare de Perpignan.
Bonsoir, une disparition, deux meurtres barbares et un point commun, le quartier de la gare à Perpignan. Il aura fallu 20 ans pour qu'une partie de la vérité surgisse et qu'un nom apparaisse, enfin, celui de Jacques Ranson. 20 ans au cours desquels les enquêteurs ont emprunté des chemins de travers, ont cru tenir le coupable alors que le vrai Jacques Ranson était dans la nature. Un homme qui, dans 3 mois, va de nouveau comparaître devant une cour d'assises pour le meurtre d'une jeune femme dans la Somme. Cette fois, le troisième dont il est accusé. Jacques Ranson a-t-il bénéficié des bégaiements de trop longues investigations dans l'affaire des disparus de Perpignan? Aurait-on pu l'identifier et l'arrêter plus tôt? C'est à ces questions et bien d'autres que nous allons tenter de répondre ce soir avec nos invités, parmi lesquels Maître Étienne Nicolo, l'avocat des familles de victimes, dans un livre qui vient de paraître, « Erreur criminelle ». Au pluriel, je le précise, il revient sur cette affaire dans laquelle les experts se sont trop longtemps trompés, où les fausses certitudes se sont multipliées au point d'avoir conduit le système judiciaire dans une mauvaise direction. En cela, l'affaire des disparus de la gare de Perpignan apparaît bel et bien comme un cas d'école.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, l'affaire Jacques Ranson, les disparus de la gare de Perpignan, 20 ans pour arrêter un tueur dont le profil ne correspond pas à celui qu'on recherche. Affaire qui démarre au tout début de l'automne 1995. Ce dimanche 24 septembre 1995, dans la soirée, les parents Andujar ont du mal à cacher leur inquiétude. Depuis des heures, ils attendent le retour de leur fille Tatiana, 17 ans, dans la maison familiale de Loupia, un village proche de Perpignan. Pas encore de téléphone portable à cette époque, Tatiana est injoignable. La jeune fille, mince, brune et souriante, est partie pour le week-end à Font-Romeu avec des copains et des copines de lycée. Le lendemain, les parents Andujar, pétris d'angoisse, apprennent que leur fille a en fait rejoint un autre groupe d'amis à Toulouse. La police est prévenue. Les enquêteurs établissent que Tatiana a bien quitté Toulouse le dimanche pour rentrer chez elle, mais elle a disparu lors de son arrivée à la gare de Perpignan. Plus aucune trace d'elle. Tatiana Andujar est la première disparue et première victime du quartier de la gare de Perpignan. Premier mystère aussi. Son corps ne sera jamais retrouvé. Aucun individu ne sera inquiété, même si les parents Andujar n'ont jamais cessé de relier cette disparition aux meurtres qui vont suivre dans ce même quartier de la gare de Perpignan. 2 ans après la disparition totale de Tatiana Andujar, le dimanche 21 décembre 1997, le corps d'une étudiante de 19 ans, Mokhtaria Shaib, est découvert dans un terrain vague, au pied d'un château d'eau non loin de la gare. La veille au soir, samedi, elle a quitté le domicile d'un ami, puis a emprunté la rue Ningesser et Colli pour rejoindre sa chambre à la cité universitaire, toute proche. C'est sur ce trajet qu'elle a rencontré celui qui allait la tuer. Un assassin pour le moment sans visage et surtout un monstre absolu. La jeune femme a été poignardée à 12 reprises à l'abdomen. Elle a été tuée quasi instantanément. Son bourreau l'a méthodiquement mutilée. Les seins et les parties génitales ont été découpés. La victime a été totalement déshabillée, ses vêtements emportés par le tueur. Mokhtaria ne porte plus que son écharpe et une boucle d'oreille. Les policiers et les légistes s'interrogent sur cette scène de crime barbare. Ils n'ont jamais vu un tel carnage, un tel acharnement, même si les experts médicaux affirment que rien n'a été fait au hasard. Les incisions et les découpes relèvent d'un réel savoir-faire, d'un véritable professionnalisme. Tout est régulier. Les légistes indiquent qu'une arme blanche de genre couteau laïol, bistouri ou rasoir de type sabre a été utilisée pour ces entailles, des mutilations qui ne peuvent être l'œuvre que d'un écarisseur, d'un boucher, d'un tanneur ou d'un chirurgien, encore un vétérinaire, assurent les spécialistes. Impossible qu'un homme inexpérimenté soit aussi précis. L'enquête va donc rechercher exclusivement un professionnel de la boucherie ou de la médecine, c'est la piste à suivre en priorité, la seule qui vaille, les autres apparaissent pour le moment comme une simple perte de temps. Bonsoir maître Étienne Nicolo.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes l'auteur du livre « Erreur criminelle » chez JPO Éditions, dans la collection Jacques Pradel, que évidemment on salue ce soir chaleureusement. Vous êtes l'avocat historique de toutes les familles de ce qu'on a l'habitude d'appeler un peu rapidement les disparus de Perpignan. On va bien sûr avancer dans cette affaire, ou plutôt ces affaires, et voir comment de mauvaises pistes ont sans doute retardé l'arrestation de Jacques Rançon. Maître Nicolo, je voudrais d'abord que vous nous disiez un mot, que vous nous parliez de Tatiana Andujar, parce que cette disparition, c'est un premier signal dans toute cette série.
Oui, dès que Tatiana a disparu, ses parents sont venus me voir et m'ont demandé de me constituer partie civile de l'instruction qui avait été immédiatement mise en place par la justice. Mmh. Et le problème avec Tatiana, c'est qu'on n'a pas de scène de crime, qu'on n'a pas de témoins, qu'on n'a rien à quoi s'accrocher pour remonter une piste et pour arriver à l'arrestation de quelqu'un.
Il n'y a rien, oui, absolument rien.
Alors que pour les autres disparitions, on a trouvé les cadavres, on a pu effectivement trouver sur la scène de crime des éléments qui vont conduire finalement au criminel, et on a la possibilité, on a toujours eu la possibilité, que parfois d'ailleurs, et on a laissé passer dans cette affaire, on a toujours la possibilité de trouver un coupable, ce qui a été le cas, mais comme vous le dites, 17 ans après.
Bien sûr, ça va prendre beaucoup de temps, et c'est bien, c'est aussi l'un des buts de votre livre, quand vous racontez cette histoire, de dénoncer aussi un petit peu ces lenteurs et les failles qui ont marqué cette enquête. Maître Nicolo, il y a rien qui relie la disparition de Tatiana Andujar, on va le dire tout de suite, à Jacques Rançon. Il était, je crois, en prison au moment des faits, c'est ça ?
Il était en prison en 1995, au moment où Tatiana Andujar disparaît. Donc, on sait que lui n'a pas trempé dans cette disparition, qu'il n'en est pas le responsable, alors que pour les autres, bien entendu, aujourd'hui, on a une certitude, non seulement il a été condamné, mais il les a avoués, et on s'aperçoit que c'était un individu extrêmement dangereux, puisqu'il commet son premier crime, comme vous l'avez rappelé, au mois de décembre 1997.
On va en parler, maître. On va en parler de tout ça. On va revenir sur les meurtres de Jacques Rançon. Je voudrais qu'on appelle Laure Moisset. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup vous aussi d'être en direct dans l'heure du crime ce soir. Vous êtes journaliste à l'Indépendant et vous avez suivi toute cette affaire. Vous la connaissez par cœur. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette scène de crime. On peut la qualifier d'insoutenable, cette scène de crime de Moctaya Shaib.
Toute cette affaire est insoutenable déjà, mais oui, cette scène de crime est particulièrement effrayante ou abominable. Je ne sais pas comment on peut la qualifier, dans la mesure où le corps présente des mutilations qui sont extrêmement difficiles à constater pour les enquêteurs. Et que cette jeune fille a subi effectivement des sévices incontestablement.
Donc là, effectivement, je suppose qu'à l'époque, c'est un véritable choc à Perpignan. C'est effrayant, cette histoire.
Cette affaire est gravée dans les esprits depuis le départ et reste quand même l'affaire qui a marqué ce département des Pyrénées-Orientales. Oui, parce que ça semait effectivement déjà une panique absolue auprès des familles, de jeunes filles, auprès des jeunes filles qui ne sortaient plus le soir, et parce qu'on n'avait pas de suspects et pas de criminels incarcérés.
Maître Étienne Nicolo, vous confirmez, très court, là, en quelques mots, c'est la piste du boucher, du chirurgien que l'on suit à ce moment-là.
Oui, les médecins légistes étaient formels. Et pour résumer, il disait que pour avoir accompli ces atrocités, il fallait avoir des connaissances anatomiques poussées. Donc, connaissances anatomiques poussées, tout de suite, les enquêteurs se sont dirigés vers un chirurgien péruvien qui habitait le coin où on avait découvert le corps. Et donc, cette piste a été immédiatement privilégiée.
Et effectivement, la piste médicale va porter ses fruits puisque un homme, présenté comme un médecin péruvien résident à Perpignan, fait figure de suspect idéal. Évident même avec lui, le dossier Mokhtaria Shaib va être sans doute résolu. Les policiers enquêtent discrètement sur les cabinets médicaux de Perpignan, les commerces de boucherie ou encore sur le personnel des abattoirs. De toute évidence, les légistes sont formels, c'est dans ce monde-là que l'on va trouver l'assassin de Mokhtaria. L'attention se porte alors sur un médecin péruvien qui habite à quelques centaines de mètres de la rue Ningesser et Colli, là où la victime a fait le 21 décembre 1997 au soir sa rencontre fatale. Cet homme est un certain Andrés Palomino Barrios. C'est un jeune médecin péruvien. Il s'est récemment fait remarquer car il a importuné un étudiant qui faisait son jogging dans le parc des sports tout près de la cité universitaire. Avant de déclencher une interpellation, les enquêteurs se penchent sur ce docteur. Il apparaît en fait que cet homme n'a jamais pu présenter un diplôme digne de ce nom dans les hôpitaux où il a été recruté. À chaque fois, il a été renvoyé. Il a même fabriqué de faux documents pour se faire embaucher. C'était un individu très spécial qui se disait chirurgien. Il avait exercé dans de nombreux hôpitaux français, mais ne possédait aucun diplôme. Un escroc, confiera un policier au journal Le Parisien. Faux médecin peut-être, il n'empêche que Palomino Barrios a suffisamment d'expérience pour sans doute découper un corps dans les règles de l'art. L'homme est interpellé le 22 janvier, un mois après le crime. Chez lui, on trouve des pièces d'identité volées et deux scalpels longs, 18 cm. Exactement l'outil chirurgical décrit par les légistes. En garde à vue, le Péruvien s'en mêle les pinceaux. Il est évasif, ne répond pas clairement sur son emploi du temps. Il finit par dire qu'il était parti au moment du meurtre en Espagne, mais aucun témoin ne peut confirmer ce voyage. Tout au contraire, ses voisins indiquent qu'à cette époque, Palomino Barrios a soudain utilisé son vieux fourgon qui ne bougeait jamais. Le véhicule, d'ordinaire sale et poussiéreux, aurait été alors lavé à grandes eaux, comme s'il avait voulu dissimuler quelque chose. Trop de doutes, trop d'indices. Andrés Palomino Barrios a décidément le profil du parfait suspect. Les policiers et le juge sont persuadés de tenir leur homme, un faux chirurgien mal à l'aise, qui esquive les questions, dissimule la vérité, un personnage fragile psychologiquement et apte à passer à l'acte, suffisant pour le mettre en examen pour enlèvement et meurtre avec acte de torture et de barbarie, et l'envoyer en prison. Palomino Barrios nie les faits dont il est accusé, mais sa voix ne porte pas. L'enquête va s'efforcer de savoir s'il n'aurait pas d'autres crimes sur les bras. Laure Moisset, vous êtes en ligne dans l'heure du crime ce soir, journaliste à l'Indépendant, et vous avez suivi toute cette affaire. Quand il y a cette arrestation du fameux Andrés Palomino Barrios, je suppose que toute la ville respire.
Effectivement, c'est un soulagement puisque un suspect est enfin trouvé pour ces meurtres abominables. Mmh. Et donc on se dit, enfin en tout cas pour ce meurtre abominable,
pour l'instant il y en a qu'un.
Il y en a qu'un effectivement à ce moment-là. Et on se dit que ça y est, cette affaire est enfin résolue et que l'histoire est terminée.
Qu'est-ce que vous savez à cette époque de ce Andrés Palomino Barrios qui a effectivement un profil, je dirais pas inquiétant, mais tout à fait troublant?
C'est le suspect idéal. Palomino Barrios, c'est le suspect idéal dans ce dossier. C'est ce qui a peut-être d'ailleurs brouillé aussi beaucoup de pistes. Hein. Mmh. Il est expert en médecine parce qu'on est quand même parti sur cet aspect-là au départ. C'est un faux médecin, mais c'est un médecin quand même. C'est un médecin qui exerce sans diplôme et qui apparemment a un capharnaüm indescriptible dans son appartement, qui a pas de mobile précis et qui effectivement a nettoyé méticuleusement son véhicule le lendemain des faits. Donc il apparaît comme le suspect idéal.
Il faut avouer qu'effectivement ça prête à confusion. Hein. Quelqu'un qui nettoie son véhicule au lendemain des faits, et de cette manière, c'est déjà un point troublant. Hein.
On se dit qu'effectivement, pourquoi il nettoie aussi méticuleusement, aussi précisément son véhicule, alors qu'il semblerait qu'il vive dans une pagaille indescriptible dans son logement, et c'est vrai que ça dénote.
Oui,
et donc... ça joue contre lui.
Il n'y a rien qui cadre avec lui, effectivement, ou bien plutôt tout cadre, tout amène à le mettre en cause. Maître Étienne Nicolo, vous êtes également en ligne ce soir dans l'heure du crime, avocat, je le répète, des parties civiles, des familles dans cette affaire. Je voudrais que vous reveniez avec vous, parce que c'est important, et c'est un peu le socle de cette histoire, et c'est un mauvais départ qui se dessine, c'est que finalement tout est construit sur les constatations des légistes, c'est bien ça, et les déductions des policiers. C'est fatalement quelqu'un qui s'est joué du bistouri qui a tué Mokhtaria.
Et c'est ce que j'explique dans mon livre, notamment, c'est que les experts sont souvent à l'origine des erreurs que commet la justice. Parce que la justice, elle se base sur des experts qui ont des compétences et qui doivent l'éclairer et lui dicter la voie à suivre. Or, si vous voulez, dans cette affaire, des légistes vont affirmer, on le verra par la suite, une deuxième fois,
tout à fait,
que les mutilations sont l'œuvre d'un médecin, de quelqu'un qui a des connaissances en anatomie. Ça ne peut pas être l'œuvre de n'importe qui. À partir de là, Palomino Barrios, c'est pas le suspect idéal, c'est le coupable idéal.
Déjà,
c'est le coupable idéal parce que il est faux chirurgien, mais il a exercé dans les hôpitaux. Donc, il a appris à faire certains actes. Et ces actes-là, on pense qu'il les a commis sur Mokhtaria Chaïb.
C'est ça, c'est exactement ça. Et ça, c'est très intéressant parce que là, effectivement, on voit comment l'enquête démarre et sur quelle base l'enquête démarre. Est-ce que vous savez, Maître Nicolo, que donnent les recherches annexes autour de cet homme sur son emploi du temps, sur le fourgon ? Est-ce qu'on recherche ou bien est-ce que dit après nous, c'est un médecin, il s'est découpé un corps et ça suffit comme ça, l'envoie en prison ?
Il y a eu des vérifications. D'abord, il s'agissait de savoir où il se trouvait dans la nuit du 20 au 21 décembre. Et quand on lui demande où il se trouvait, il dit « J'étais en Espagne, j'étais à Mataró, j'y ai passé donc 10 jours. » Or, tous ses voisins, toutes ses voisines, qui sont entendues aussi, disent l'avoir vu le 20 au soir et le 21 au matin. Donc, si vous voulez, on sait qu'il ment. Pourquoi ment-il ? On ne le saura jamais pourquoi il a menti. En réalité, cet homme a donné aussi des éléments aux enquêteurs pour laisser penser qu'il était coupable, en donnant un faux alibi, en disant qu'il n'était pas là, en niant avoir lavé son fourgon, alors que là aussi, les témoins sont formels, son fourgon ruisselant d'eau, ils l'ont vu le 21 au matin, alors qu'il ne l'avait pas lavé depuis 2 ans, et qu'il n'était pas là la veille, alors que ce fourgon était toujours là aussi, et ne bougeait jamais de place.
Andrés Palomino Barrios ne va être le coupable idéal que pendant quelques mois. Un autre meurtre, tout aussi cruel, va démontrer que la piste du chirurgien fou n'est peut-être pas la bonne. Le 26 juin 1998, le cadavre d'une jeune femme est découvert dans un terrain vague, non loin du péage de l'autoroute A9. Tout comme dans l'affaire Mokhtaria Chaïb, le corps a été mutilé et dépecé avec un couteau ou un scalpel. Cette fois, ce sont la tête et les mains qui ont été découpées. Les légistes font le même constat que pour le premier meurtre. Ils notent dans leur rapport l'habitude de la manipulation du corps humain et du maniement d'instruments tranchants, ainsi qu'un minimum de connaissances anatomiques pour avoir perpétré une telle horreur. La jeune femme s'appelle Marie-Hélène González. Elle avait 22 ans. 10 jours avant la découverte du corps, vers 21h, elle se trouvait à la gare de Perpignan, descendant d'un train en provenance d'Argelès-sur-Mer. Elle devait rejoindre ses parents dans un village proche et a sans doute fait du stop. C'est de toute évidence un seul et même homme qui a commis les deux meurtres. Certainement pas donc le Péruvien Andrés Palomino Barrios. Il était incarcéré quand Marie-Hélène González a été tuée. Le juge décide donc de le libérer. Palomino Barrios est expulsé de France et refait sa vie en Espagne. Il sera retrouvé étranglé en 2012 dans son appartement près de Valence. Après ce faux pas, l'enquête redouble d'intensité. Le quartier de la gare de Perpignan est placé sous surveillance. Les allées et venues d'hommes seuls en voiture sont épiées. On recherche toujours un professionnel de la découpe, médecin ou boucher. Des vérifications sont lancées tout azimut, mais sans résultat probant. Les mois vont ainsi défiler sans que les crimes de Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène González ne soient résolus. Trois ans plus tard, la disparition d'une étudiante de la fac de lettres, Fatima Hidraou, attire l'attention. Fatima a disparu le 9 février 2001 dans la soirée, dans le même secteur où l'on avait retrouvé le premier corps. Tatiana Andujar, disparue. Mokhtaria Shaib, tuée. Marie-Hélène Gonzalez, tuée. Fatima Hidraou pourrait donc être la quatrième victime du maniaque de la gare. Pour cette disparition, les policiers sont vite sur la trace d'un suspect, un certain Marc Delpech, un barman. Il est arrêté le 22 février en Meurthe-et-Moselle. Delpech reconnaît tout de suite avoir tué Fatima Hidraou et donne beaucoup de détails. Il dit avoir jeté le corps au Cap Béart. Les recherches entreprises ne donnent rien. Il explique s'être disputé avec la victime, une querelle d'amoureux. Delpech est un suspect intéressant. Chez lui, les policiers découvrent l'ébauche d'un roman intitulé « Tatiana », prénom de la première disparue. L'histoire d'une jeune femme qui s'évapore dans le quartier de la gare. Troublante coïncidence. Aucun lien toutefois ne sera établi entre cet homme et la disparition de Tatiana Andujar. Le corps de Fatima Hidraou lui sera finalement retrouvé, non pas au Cap Béart, mais enterré en bordure d'un étang. Un corps non découpé cette fois. Delpech sera condamné à 30 ans de prison pour ce meurtre, meurtre qui n'aurait aucun lien avec les précédents. Maître Étienne Nicolo, ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, avocat des familles des victimes, il y a ce deuxième meurtre horrible, ce crime qui ressemble tant au premier, celui de Marie-Hélène Gonzalez. Est-ce que c'est, Maître Étienne Nicolo, est-ce que c'est le meurtre qui change tout dans cette histoire ?
Il change tout, mais il laisse en suspens la question de savoir s'il y a un seul tueur ou s'il y en a plusieurs. Parce que même les policiers pensent que ce second meurtre, qui est beaucoup plus horrible que le premier, parce que le meurtrier a enlevé la tête, a enlevé les mains, les enquêteurs pensent que c'est peut-être l'œuvre de quelqu'un qui a voulu imiter Palomino Barrios, ou de quelqu'un qui est totalement étranger à celui qui avait été commis par Palomino Barrios. Il y a encore à ce moment-là des policiers qui sont convaincus que Palomino Barrios a bien tué Mokhtaria Shaib.
Bien que la justice le libère et dise qu'il n'y a rien contre lui, vous dites qu'il y a des enquêteurs qui vont être persuadés, peut-être encore même aujourd'hui, que Barrios aurait pu commettre le premier crime.
Absolument, parce qu'ils sont convaincus, eux, que Palomino Barrios est un personnage tellement étrange et tellement capable de commettre ces actes horribles que c'est bien lui qui a tué Mokhtaria Shaib. Et alors, ce que les enquêteurs ne savent pas, ou plus exactement, ce avec quoi ils n'ont pas fait le lien, c'est qu'entre le meurtre, je ne sais pas si vous allez en parler, mais entre le meurtre commis
bien
sur Mokhtaria Shaib...
On va en parler, maître, parce qu'on va en parler dans le chapitre suivant. Effectivement, oui. Il y a une autre victime qui va se déclarer, et ça sera important, mais on va parler de ce mécanisme. Je voudrais qu'avec Laure Moisset, journaliste à l'Indépendant, qui a suivi toute cette affaire, que vous nous parliez un petit peu, Laure, de ces recherches entreprises à l'époque, après ce deuxième meurtre. Les forces de police vont se décupler, ça va partir dans tous les sens, sur Perpignan, et d'ailleurs bien au-delà.
Ah oui, tout le secteur est ratissé à cette époque. Effectivement, il s'agit malheureusement aussi de retrouver la totalité du corps de Marianne Gonzalez. Une partie de son corps sera retrouvée d'ailleurs des mois plus tard, enroulée dans un tapis au bord de l'autoroute. C'est effectivement des recherches débattues qui sont organisées. Alors même si on était persuadé d'avoir un coupable pour le premier meurtre, le doute commence à s'installer quand même.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que de toute évidence, il y a au moins deux meurtriers qui seraient impliqués.
Alors deux meurtriers pour certains. Il y a deux écoles ou deux démarches. Il y a ceux qui ont toujours pensé qu'il n'y en avait qu'un seul.
Ouais.
Ceux qui ont toujours pensé qu'il y en avait deux,
ouais,
ou trois.
Ouais. Les enquêteurs, Laure Moisset, les enquêteurs sont divisés à ce moment-là sur ces éventualités, ces hypothèses.
Je crois qu'il y a eu toujours deux versions, ou en tout cas. Enfin, après, il faut se remettre aussi dans le contexte. Hein, on se raccroche à ce qu'on peut, hein, et à ce qu'on a. Et puis on est dans les années 1990. On n'a pas tous les moyens qu'on a aujourd'hui. effectivement, on peut se raccrocher à ce qu'on, peut. Mais oui, je pense qu'il y a, eu deux versions, et je pense qu'il y a eu ceux qui ont primé la version d'un seul tueur et ceux qui se sont dit, mais non, il y en a plusieurs.
Bien sûr, ce qui a fatalement pesé sûrement sur la marche des investigations. Maître Étienne Nicolau, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette étrange Marc Delpech sur le cas Fatima Hidraou. Alors, c'est une affaire qui n'est pas formellement liée aux autres, mais il est tout de même étrange, et notamment, il évoque Tatiana dans ce roman qu'il ébauche chez lui, dans ses mots retrouvés.
Oui, quand Delpech est arrêté, il est arrêté parce qu'il y a une autre jeune femme qui a disparu, Fatima Hidraou, et à cette époque-là, avant l'arrestation de Delpech, tout le monde pense qu'il s'agit de la quatrième victime de la gare de Perpignan. Alors lui, on l'entend et il explique avec beaucoup de lyrisme qu'il était amoureux de cette jeune femme, qu'ils se sont disputés, que dans un geste de colère, il l'a étranglée, et puis qu'il est allé jeter le corps à la mer, le confier à la mer, dit-il, au large du Cap Béar. Et on s'aperçoit ensuite que tout ce qu'il a dit est faux, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été le compagnon ou l'amant ou l'ami de Fatima Hidraou, et puis surtout, il n'a même pas jeté le corps à la mer. On l'a retrouvé dans un étang, au bord d'un étang.
Tout à fait. Donc, il a menti beaucoup. Encore juste un petit mot, maître, sur Tatiana, sur ses écrits. On est sûr qu'il n'a rien à voir avec la disparition de Tatiana, ce Marc Delpech.
Les enquêteurs ont essayé de faire le lien. Pour l'instant, ils ne l'ont pas. Il y a effectivement plusieurs éléments. Il y a le fait qu'on a trouvé chez lui donc, ce début de roman dans lequel il explique qu'un nommé Jack suit sur l'avenue de la gare Tatiana parce qu'il va l'enlever. Il y a aussi des questions que Delpech s'est posées devant les experts psychiatres en disant « Le juge pense que j'ai tué d'autres femmes et moi je me demande si c'est vrai ou pas. » Donc il a collectionné chez lui aussi tous les articles des journaux parlant des disparitions de la gare de Perpignan.
Le temps va s'écouler, il va falloir attendre une bonne dizaine d'années pour que les progrès de la science, l'ADN, apportent une toute nouvelle lumière sur les crimes du quartier de la gare de Perpignan. Après une dizaine d'années passées au 36 quai des Orfèvres, le capitaine de police Vincent Delbreil a été nommé à Perpignan. Ici, il hérite du dossier des disparus de la gare. Il le reprend de A à Z et se concentre sur les retards, les manques, sur les indices qui auraient pu être négligés. Le capitaine Delbreil croit aux avancées de la science, à l'ADN. Fin 2012, il demande que des recherches puissent être lancées sur l'ensemble des scellés conservés au greffe du tribunal. Requête acceptée. Deux ADN masculins sont prélevés, l'un sur une chaussure de Mokhtaria Chaïb, chaussure retrouvée 10 jours après le crime, un autre sur la ceinture de Marie-Hélène Gonzalez. ADN hélas partiel, mais qui permet d'exclure du champ des suspects deux hommes apparus lors de l'enquête, Andrés Palomino Barrios et Marc Delpech. Deux ans plus tard, 2014, la science a de nouveau progressé. Cette fois, il est possible de comparer l'ADN au fichier des empreintes génétiques. Un nom apparaît, celui de Jacques Ranson, un chariste, un manutentionnaire de Perpignan. Le 14 octobre 2014, Jacques Ranson est placé en garde à vue. À l'époque du meurtre de Mokhtaria Chaïb, il logeait dans un petit hôtel, l'hôtel du Berry, près de la gare de Perpignan. Il reconnaît avoir tué l'étudiante, mais dit-il, c'est la seule fois qu'il a tué quelqu'un. Il est mis en examen et écroué, sa photo s'affiche dans tous les journaux. Une jeune femme le reconnaît, celle qui témoignera à son procès sous le prénom de Sabrina, est certaine d'avoir été agressée par Ranson en mars 1990. L'homme l'avait abordée alors qu'elle attendait au bas d'un immeuble le retour de son copain. Il s'était rapidement jeté sur elle en lui plantant un couteau dans le ventre. Sabrina s'en était sortie miraculeusement après avoir hurlé et avoir été secourue par une femme. Son dossier sera curieusement classé sans suite. Aucun rapprochement effectué malgré les coups de couteau avec le meurtre de Mokhtaria. Le commissariat ne préviendra pas la police judiciaire et trois mois plus tard, Marie-Hélène Gonzalez sera assassinée. Après 20 ans d'enquête, le procès de Jacques Ranson, sinistre criminel qui ne semble éprouver aucune émotion, s'ouvre devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, à Perpignan. Les familles des victimes espéraient des explications ou une confession. Mais Jacques Ranson ne semble avoir qu'un désir, se faire oublier. Il reconnaît les meurtres de Moctaria et de Marie-Hélène, dit les avoir mutilés pour ne pas laisser de traces. Il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec 22 ans de sûreté. Maître Étienne Nicolo, avocat des familles des victimes. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, maître, parce que je ne comprends pas comment est-il possible qu'une femme qui porte plainte, qui a été poignardée quasiment dans les mêmes conditions qu'une première victime, Moctaria, que cette plainte soit classée sans suite.
C'est là, justement, une erreur, une énorme erreur de la justice. Quand cette jeune femme dépose plainte depuis son lit d'hôpital, alors qu'elle a eu les reins atteints, l'estomac atteint, la rate atteinte, le foie, il lui avait dit Ranson à ce moment-là, je vais te tuer. Et surtout, il lui avait donné des éléments. Il lui avait dit, je viens de fêter aujourd'hui mon 38e anniversaire. Donc, on avait ce jour-là sa date de naissance.
Une date précise.
Une date précise, puisque 38 ans, on remontait 38 ans avant, on avait la date de naissance de cet homme. Donc elle lui donne des éléments que la police aura et avec lesquels elle peut remonter jusqu'à Ranson.
Ben oui, c'est
et
facile même.
Non seulement on ne remonte pas jusqu'à Ranson, mais en plus, le dossier est transmis en l'état au parquet qui, quelques semaines après, classe le dossier sans ouvrir une information.
C'est incroyable.
On est en présence d'une tentative de crime et le parquet n'ouvre pas d'information.
C'est incroyable. Alors, sans faire trop de prospective malsaine d'ailleurs, mais est-ce que vous pensez, maître, que le deuxième meurtre, celui de Marie-Hélène, aurait pu être évité si on avait poursuivi d'un seul coup la piste Ranson ?
Absolument, parce que 3 mois avant cette agression sauvage aussi, Moctaria Chaïb meurt. Elle est tuée dans des conditions dont on a parlé. Et là, un homme plante dans le ventre d'une jeune femme son couteau en lui disant « je vais te tuer ». Cette jeune femme a dû la vie à l'intervention d'une voisine. Mais on a des éléments pour arrêter cet homme et on doit faire le lien avec ce qui s'est passé. Et là, le lien n'est pas fait. Et au contraire, le parquet, comme s'il s'agissait d'un vol à la tire qui n'a pas été élucidé, classe le dossier. Classer un dossier d'une tentative de meurtre sans ouvrir une information, c'est une faute professionnelle. Et d'ailleurs, le jour des assises, l'avocat général a dit, oui, il y a eu un loupé.
Ah, ça a été reconnu à l'audience.
Ça a été reconnu par les magistrats, oui. Bien sûr qu'il y a eu un loupé. Il y a eu un loupé au niveau de la police. Encore que la police, à ce moment-là, elle a l'excuse de penser que le criminel est en prison. Palomino Barrios est en prison, donc la première affaire a été élucidée. C'est une affaire différente. Mais le parquet, qui est en présence d'un crime, d'une tentative de meurtre, classe ce dossier sans faire de recherche.
Bien sûr.
C'est assassin, ça.
Oui, c'est vous qui le dites, c'est assassin, mais en tout cas, c'est je pense, du jamais vu dans votre longue carrière de pénaliste. Laure Moisset, on parlait justement de cette audience aux assises avec Jacques Ranson. Quel souvenir vous avez de ce Jacques Ranson dont on découvre finalement le visage à ce moment-là ?
Parce que c'est pas le terme qui convient, mais c'est extrêmement décevant, finalement. Parce que sur toutes ces années, on nous l'avait présenté comme un génie du crime. Un fan de Dali, même à un moment donné, quelqu'un qui met en scène complètement ses crimes, et on se retrouve face à quelqu'un de terriblement normal, quoi.
Il explique ou pas ?
Qui est à la fois terrifiant parce qu'on sait ce qu'il a fait, mais qui est terriblement normal.
Et affreusement normal ou horriblement normal, comme on voudra. Mais est-ce qu'il y a les familles qui sont là, hein, notamment il y a la famille aussi de Tatiana qui est là, parce que évidemment cette lycéenne n'a jamais été retrouvée. La famille est là. Qu'est-ce qu'elles en pensent, les familles, à ce moment-là, de ce monstre, il faut l'appeler comme ça ?
Ah ben elles sont dévastées, les familles, elles sont dévastées déjà depuis le départ. Et elles le sont encore, des années après. Elles sont totalement bouleversées par ce qui se passe, et puis à la fois effectivement animées par une colère tout à fait légitime. C'est entre la colère, chagrin terrible, une douleur immense, quelque chose qu'on peut pas trop nous comprendre aussi, parce que c'est quelque chose de tellement affreux qui se passe, et puis on a cet homme-là face à soi, et finalement c'est pas... Enfin, nous, en tout cas, c'est pas du tout celui qu'on imaginait. Et c'est terrifiant. Et surtout, ce qui est affreux, c'est qu'on n'a pas d'explication.
Jacques Ranson est condamné. Il n'en a toutefois pas fini avec la justice. Il est accusé d'avoir tué dans la Somme, en 1986, une jeune informaticienne, Isabelle Ménage, 20 ans. Du 8 au 11 juin prochain, Jacques Ranson est appelé à comparaître devant la cour d'assises de la Somme à Amiens. Il est accusé du meurtre d'Isabelle Ménage, 20 ans, informaticienne. Son corps avait été retrouvé le 3 juillet 1986, 10 ans donc avant les crimes de Perpignan, dans un bois de la commune de Cachy, à 12 km d'Amiens. Violée, mutilée, ses habits dispersés. Les avocats, la famille vont être intrigués par les similitudes avec les scènes de crimes imputées à Jacques Ranson. La photographie des corps de Mokhtaria Chaïb et Marie-Hélène Gonzalez était la copie conforme de celle montrant Isabelle Ménage, indiquera maître Corinne Herman. Il faudra toutefois procéder à une exhumation du corps, à une deuxième autopsie pour démontrer que Isabelle Ménage avait bel et bien été poignardée. Les légistes n'avaient pas accordé à l'époque beaucoup d'importance à ce détail. Jacques Ranson va avouer ce crime en garde à vue, se rétracter, mais sans toutefois interrompre la marche de son renvoi aux assises. 20 ans pour que la vérité apparaisse dans deux meurtres, peut-être trois bientôt avec le procès Isabelle Ménage. Jacques Ranson a-t-il tout dit ou cache-t-il encore d'autres crimes ? 26 ans après, le quartier de la gare de Perpignan reste le décor d'une disparition et d'une mort inexpliquée, celle de la lycéenne Tatiana Andujar. Bonsoir Marie-Josée Andujar.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir dans l'heure du crime. Je tenais absolument à ce qu'on vous entende ce soir parce que votre parole compte. Vous êtes la mère de Tatiana Andujar. Toutes ces années qui ont passé, je suppose que le souvenir de votre fille est toujours très présent. Est-ce que vous attendez encore quelque chose aujourd'hui de la justice et des investigations ?
Oui, bien sûr. J'attends des réponses, de savoir, tout simplement savoir ce qui s'est passé. Qui l'a fait disparaître ? Tatiana n'est plus là aujourd'hui, c'est une certitude, mais qui, pourquoi, comment ? Voilà, toutes ces questions ne peuvent pas rester comme ça en suspens.
Vous en profitez ce soir, évidemment, dans l'heure du crime pour lancer un appel, parce qu'il peut toujours y avoir, finalement, des années après, l'histoire criminelle le montre, des témoignages, des indices qui peuvent ressurgir.
Oui, oui, tout à fait, il peut y avoir quelque chose que quelqu'un n'ait pas dit parce qu'il pense que c'est insignifiant. Voilà, quelque chose que quelqu'un a constaté ou a entendu. Et c'est important, le moindre détail peut permettre d'aboutir et de permettre en tout cas de savoir ce qu'est devenue Tatiana.
Marie-Josée Andujar, est-ce que dans toutes ces enquêtes qui se sont déroulées et que vous avez suivies, évidemment, vous êtes allée au procès, est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont marqué ou qui vous ont intrigué beaucoup plus que d'autres ?
Dans le cas de Tatiana Andujar, c'est évidemment Marc Delpech. Qui, pour moi, reste le principal suspect quant à la disparition de Tatiana. Il y a beaucoup d'éléments et beaucoup de choses qui le lient à ma fille, en fait.
Oui, c'est troublant avec, effectivement, cette histoire de roman amorcé, où il y a beaucoup d'éléments, où il décrit, finalement, votre fille.
Hein. Oui, tout à fait. Il y a le roman, et puis il y a beaucoup d'autres choses qui le lient à Tatiana. Et bon, pour ma part, il a aussi avoué, en fait, avoir... il a dit avoir jeté le corps de Fatima, donc Cap-Béart, c'était absolument faux. Et je pense que ça, il l'a certainement produit avant et avec Tatiana.
Oui, c'est ça. Parce que finalement, il a enlevé quelqu'un comme il aurait pu enlever Tatiana. C'est ce que vous estimez, en tout cas, vous pensez qu'il y a une piste à suivre encore de ce côté-là. Il faut peut-être insister.
Moi, je pense, je sais que les enquêteurs ont fait un travail remarquable à ce sujet. Hein. J'en suis consciente. Mais voilà, je pense que Delpech n'a pas tout dit. Mmh. Et ça, j'en suis sûre, et je resterai toujours sur cette idée tant qu'on ne me démontrera pas le contraire.
Maître Étienne Nicolo, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. On vient d'entendre la maman de Tatiana Andujar, Marie-Josée Andujar, qui était en ligne avec nous à l'instant. Il y a trop d'erreurs qui ont été commises dans ce dossier de la gare de Perpignan, trop de faits qui ont été balayés, peut-être un peu rapidement.
Oui, il y a eu donc des erreurs commises par les experts qui ont orienté l'enquête vers un professionnel du bistouri. Il y a eu l'erreur commise par les enquêteurs qui n'ont pas fait le lien entre l'agression commise en mars 98 sur une jeune femme, alors qu'elle leur avait donné des éléments en leur disant que c'était le 38e anniversaire de l'homme qui l'avait agressé, qu'il travaillait à Saint-Charles, à Perpignan, enfin, les éléments qui permettaient bien de l'interpeller. Mmh. Et il y a eu aussi, bien sûr, le fait que Ranson n'a jamais cessé de commettre des agressions. On parle de Mokhtaria, Tatiana... Mokhtaria, de Marie-Hélène et de cette jeune femme, mais oui. Après Marie-Hélène, il y a eu encore une agression. Moi, je suis convaincu que
oui, il faut le dire, maître. Ça, c'est qu'effectivement, Ranson, il va avouer, je crois, une tentative de viol, c'est ça, une autre.
Une tentative de viol. Après, il en avait commis une dès son arrivée à Perpignan. Ouais. Il sort de prison en septembre 1997. Il arrive à Perpignan au mois de septembre 1997, il commet une première tentative de viol.
Donc selon vous, maître Nicolo, Jacques Ranson cache encore des choses, il n'a pas tout dit.
Il n'a pas tout dit, la preuve c'est qu'aujourd'hui on se rend compte que dans la Somme, en 1986, il avait tué Mademoiselle Ménage.
Isabelle Ménage.
Or, oui. Isabelle Ménage, aujourd'hui, il nous a toujours dit qu'il avait mutilé les corps pour faire disparaître des traces d'ADN. Mmh. Or, il mutilie Isabelle Ménage en 1986, je crois, à une époque où les recherches ADN n'existent même pas. Mmh. Donc, à cette époque-là, il n'a pas mutilé cette jeune fille pour faire disparaître ses traces ADN.
Il l'a mutilé par perversion, c'est ça que vous voulez dire?
Ah, moi j'en étais toujours persuadé. Et d'ailleurs, j'en suis encore plus persuadé aujourd'hui quand je vois qu'il mutilait à une époque où on ne pouvait pas rechercher l'ADN parce que ces recherches n'existaient pas.
Mmh. Laure Moisset, journaliste à l'Indépendant, vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, mais effectivement, c'est une histoire qui a marqué les esprits et qui est toujours présente à Perpignan, cette affaire du quartier de la gare.
Et qui le restera tout le temps. Mmh. Et d'autant plus qu'il reste effectivement le meurtrier de Tatiana Andujar à trouver.
Oui, c'est ça.
Et est-ce que... Parce qu'il reste encore une affaire non élucidée dans l'affaire des disparus de la gare. Quoi qu'il en soit, Jacques Ranson a été condamné, sera encore jugé dans les prochains mois pour cette affaire d'Amiens. Mais à Perpignan, dans le quartier de la gare, il reste toujours une disparue.
Oui, et une disparue.
Et dont on a, pour laquelle on n'a aucun élément.
Une disparue importante, hein, c'est effectivement Tatiana, il faut continuer à en parler parce que c'est un peu le chaînon manquant, hélas, dans cette histoire. Vous pensez, comme sa maman, qu'on a entendu, Marie-Josée Andujar, qu'il faut continuer peut-être les recherches et peut-être réinterroger ce Marc Delpech après tous les éléments qui ont été trouvés sur lui là-dessus?
Ah, mais je le pense profondément. Je pense, comme elle, qu'il y a un détail, sans doute, quelque part, que quelqu'un connaît un détail qui permettrait de faire avancer cette enquête. Mmh. Et je pense qu'on ne peut pas en rester là. Mmh. Et je pense que, de toute façon, ce dossier des disparus de la gare, même si ce n'est pas Jacques Ranson qui a tué Tatiana, il faut absolument qu'on le boucle. Et il n'est pas encore bouclé.
Merci beaucoup Laure Moisset, maître Étienne Nicolo et Marie-Josée Andujar d'avoir été tous les trois ce soir en direct dans l'heure du crime pour l'affaire des disparus de la gare de Perpignan et son cortège de fausses certitudes, de fausses pistes et de faux coupables, en espérant que l'un jour on puisse retrouver Tatiana Andujar, la disparue de Perpignan. En tout cas, Jacques Ranson, lui, est sous les verrous. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission. Marc Bisset était à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir ensemble avec nous cette heure du crime.